Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On se demandera sans doute, un an après l'apparition du mouvement MeToo, qui commence dans le monde du cinéma, entre Cannes et Hollywood, se poursuit dans le milieu de l'art et des médias, et explose jusqu'à l'Académie Nobel en Suède ces jours-ci, on se demandera si la production d'œuvres intellectuelles ou artistiques, l'exposition au public, la notoriété, constituent ou pas des terrains particulièrement favorables à l'expression de la violence sexiste, l'arrogance masculine, la domination sexuelle. On supputera que l'ego viril y est flatté, gonflé, dopé, à tel point qu'il se regorge de sa toute-puissance, impuni, glorifié. En octobre 2017, par exemple, le co-éditeur de la revue d'art contemporain Art Forum, Knight Landesman, est accusé d'abus sexuels par 9 de ses collègues. Il démissionne. Suite à cet outing, 7000 femmes qui travaillent dans l'art contemporain signent une lettre ouverte intitulée « We are not surprised », « Nous ne sommes pas surprises ». Elles sont artistes, commissaires d'expo, critiques d'art, étudiantes, stagiaires, galeristes et elles dénoncent les abus dans le monde de l'art en répétant de manière glaçante « Nous ne sommes pas surprises ». Pas surprise de se faire ploter dans les foires, pas surprise lorsqu'un mécène leur fait des avances et pas surprise des conséquences qui suivent un refus de leur part. L'anaphore se poursuit, pas surprise. Elles se font aussi une promesse, elles ne se tairont plus. Un an plus tard, les accusations et les procès pour agression se multiplient, les expos et les articles mettent en avant les femmes et la revue Art Forum se met même à produire du contenu féministe intersectionnel. Mais le mouvement We Are Not Surprised y voit parfois une hypocrisie derrière un vernis progressiste. D'ailleurs, Knight Landesman n'écrit plus dans Art Forum, mais il en est toujours copropriétaire. Et le combat juridique des plaignantes est loin d'être gagné. Un an ou presque après MeToo, et tout de suite donc dans les pieds sur terre, deux autres histoires de harcèlement dans le monde de l'art, On n'est pas rendu, par Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
On va le mettre avec le meilleur, Baryshnikov. Ça, c'est une des versions de Don Quichotte les plus connues, on va dire. Avec Mikhail Baryshnikov et Cynthia Harvey. Voilà. Ça, c'est la première entrée de Don Quitry.
Mon nom est Gaëla Pujol, je suis danseuse, enfin j'étais danseuse on va dire maintenant, avec voilà, l'histoire qui m'est arrivée. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans, j'ai fait mes classes au conservatoire de Toulouse, ensuite je suis allée à l'école de danse de l'Opéra de Paris pour quelques années, et j'ai trouvé mon premier vrai contrat à l'Opéra de Berlin. Donc j'ai été engagée là-bas en tant que corps de ballet, le plus bas grade, on va dire, dans une compagnie de danse. Quand vous regardez un lac des cygnes, par exemple, vous dites, oh, y a les filles au fond qui font les cygnes, et puis vous avez le cygne, mais vous vous dites pas, les filles au fond, mais comme elles souffrent, c'est horrible. Parce que de danser, et puis tout d'un coup, de ne pouvoir plus bouger sur scène, rester en pause avec la lumière qui vous chauffe, que vous transpirez, vous avez la goutte de transpiration dans l'œil, vous avez mal aux genoux, à force d'être à genoux. Enfin, c'est horrible. Vraiment, les corps de ballet dans les grands ballets classiques, c'est moi, à chaque fois, je dis chapeau. Puis petit à petit, on commence par un rôle, un deuxième rôle, un troisième rôle. Et puis bon, après, je suis montée rapidement soliste là-bas. Et voilà. Je suis tombée enceinte là-bas de ma première fille. Le directeur était absolument ravi de cette grossesse. C'était là-bas plutôt une fête, une joie. Et donc voilà, ça s'est très bien passé. Bon, suite à ma grossesse, moi, je préférais rentrer en France parce que mon compagnon était retourné en France. Mais tout de suite après, j'ai retrouvé un contrat donc, de soliste. Donc voilà, donc ça se passait, on va dire, très bien pour moi. Ceci dit, parce que je voyais ce qui se passait autour de moi avec les danseurs en général, la façon dont ils étaient traités par le directeur. directeur, quand il n'a pas un intérêt, je ne sais pas comment dire, primordial, c'est-à-dire qu'il voilà, il se dit dans l'immédiat, je ne trouverai pas quelqu'un d'autre pour faire ce que la personne fait. Les autres danseurs ne sont pas forcément très bien traités. J'ai des remarques blessantes devant tout le monde. Enlève-moi ton pantalon, que je regarde tes jambes, quoi. Enfin, c'est, je sais pas, là-dessus, dans le milieu de la danse, il y a quand même un problème. On est vraiment considérés comme des choses, des enfants, des objets. La plupart, on n'a pas fait d'études. On est certains, on n'a même pas le bac. Moi, j'ai même pas le bac. Les gens ont peur de parler, ont peur de dire quelque chose, parce que peur de perdre d'emploi, donc tout simplement. Et c'est vrai que le directeur joue beaucoup de ces problèmes-là. Pour lui, si t'es pas content, tu t'en vas. Après, moi, mon cas, je veux avoir un deuxième enfant. J'avais pas envie non plus d'attendre trop longtemps parce que la vie est courte. Et la vie d'une danseuse est très courte aussi. Donc,
Vous avez quel âge ?
J'ai 36 ans. Si j'attends quoi ? J'attends la fin de ma carrière. J'ai vu aussi beaucoup de danseuses, malheureusement, qui ont attendu la fin de leur carrière pour faire des enfants. Et maintenant quoi ? Elles n'arrivent plus à avoir d'enfants parce qu'elles sont trop âgées. La danse, c'est ma passion. Je vis avec depuis que je suis née. Mais je refusais aussi de mettre ma vie privée de côté pour un directeur de ballet. Donc j'ai annoncé ma grossesse à mon directeur. Et bon, au début, il a fait un peu comme si, voilà, tout va bien. Bon, j'ai quand même fait la saison un peu en fonction de toi. Donc, c'est dommage que tu ne me l'aies pas dit plus tôt parce que j'aurais pu tout changer. Bon, tout de suite, il passe une annonce pour trouver quelqu'un qui serait capable de faire tous les rôles que j'étais censée danser. Mais il ne vous le dit pas à vous personnellement. Donc, vous vous retrouvez un peu comme un imbécile, donc vous retournez dans votre coin, vous asseoir par terre, à attendre que la journée se passe. Et j'ai résisté longtemps, parce que je sentais qu'il voulait que je parte. Et moi, j'étais à 4 mois, donc c'était pas non plus énorme dans la grossesse, c'était pas, voilà, je pouvais très bien continuer encore un petit peu à faire des sauts quand même. Voilà, c'est une personne qui s'écoute pas trop, on va dire, physiquement, je fais, et puis bon, jusqu'à présent, ça s'était toujours bien passé, donc... Pas poser de questions plus que ça. Hein. J'ai accouché, voilà, tout s'est très bien passé. Donc j'arrive le premier jour et bon, il me voit et il me dit trop rien. Il me dit bon, la tournée, parce qu'il y avait une tournée de prévue à Rome. Il me dit, bon, je pense que c'est pas la peine que tu viennes. Bon, je lui dis, bah, écoutez, oui, ok, très bien, donc je vais pas à Rome, voilà. Et le lendemain, donc, on commence une répétition pour faire Don Quichotte, et donc je me mets au fond, en position, un peu pour commencer à répéter, hein, ce qui est dans la logique. Il me fait signe de venir, il était assis devant, il me fait signe de venir de la main, comme ça. Et j'arrive vers lui, il me dit « Oh là là, mais vous êtes combien ?» L'air de dire « Oh là, mais t'es tellement grosse que je sais même pas combien t'es, quoi. Je sais pas. » Il me dit « Bon, après voir, je vais peut-être te mettre dans une ligne, là, avec les supplémentaires. » Donc il me met en... Voilà, les supplémentaires, c'est des danseuses qui viennent quand on fait les gros ballets classiques, parce qu'on n'est pas assez nombreux dans l'effectif du ballet, donc elles viennent pour faire, voilà, certaines parties. Donc vous passez de soliste à supplémentaire. J'ai absolument rien contre des supplémentaires, mais souvent ce sont des personnes jeunes qui commencent leur carrière. Moi, ma carrière, elle est bien entamée, j'ai eu d'expérience, je trouve que c'était un peu... Mais bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va passer, c'est un mauvais moment à passer, il va voir que de toute façon tu peux revenir, ça va aller. Et là, on a nos entretiens annuels avec le directeur, donc pour nous annoncer si on est ou pas renouvelé pour la saison d'après. Donc ça, c'est tous les ans, on a ça. Donc il commence par me demander comment je me sens. Je lui dis, bah écoutez, je me sens très bien. Je sens que j'ai perdu beaucoup. Oui, t'as perdu beaucoup, mais bon, tu vois, le matin, tu pourrais venir à vélo. Il y a à peu près il y a 9 km, je crois, pour aller travailler. Donc le matin, avec un enfant en bas âge, il faudrait que je parte à vélo au travail pour faire un métier physique, que je revienne le soir à vélo. Et il me dit, sinon, tu t'achètes un tapis de course à la maison. Ou sinon, tu vas dans une salle de sport. Quand tu rentres chez toi, tu vas dans une salle de sport et tu vas faire du sport. Et il dit, bon, ben voilà, moi, pour le moment, je te renouvelle pas ton contrat parce que j'attends de te revoir sur scène. Ouais, évidemment, j'aurais aimé que ce soit toi qui danse, qui trie, donc dans Don Quichotte, mais bon, c'est à toi de me dire si tu peux le faire ou pas. Je lui ai dit, bah écoutez, oui, je veux bien essayer, ça va peut-être me faire maigrir plus vite, on essaye de trouver n'importe quelle excuse, de dire, bon, bah oui, ça va être bien pour moi, alors qu'on sait très bien que c'est pas bon, quoi, mais bon. Donc je me dis, bon, je vais dans le studio, je travaille comme une folle, je travaille mon rôle à fond comme une folle, et parce que là, il me restait plus que 2 semaines pour préparer le rôle, hein. C'est un peu comme gagner un marathon, quoi. Mais suite à une grossesse. Vous arrêtez pas, vous n'arrêtez pas, vous n'arrêtez pas, vous n'arrêtez pas. Vous rentrez, vous sortez, vous courez. Vous êtes tout le temps joyeux à sauter dans tous les sens, dans ce ballet. J'adorais le danser, ce ballet, avant ma grossesse, parce que voilà, c'est des choses, je pense, qui me correspondaient techniquement. Autant là, ça a été un enfer, un enfer, un enfer sur terre. Je me sentais de plus en plus mal. Je disais aux danseurs, je vais mourir, je vais mourir, je peux plus. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui se plaint, je suis pas quelqu'un qui, voilà, qui se laisse aller physiquement. Et au cours d'une répétition, ben, j'ai fait un malaise, je suis tombée dans les pommes. J'étais en train de danser et suite à ça, j'ai fait une crise de spasmophilie parce que j'ai tous les nerfs qui sont retombés de tout ce qui s'était passé. Pendant mon malaise, mon directeur était là, hein, quand j'ai fait le malaise. Tout le monde était là d'ailleurs, toute la compagnie. Et la seule personne qui n'en avait strictement rien à faire, c'était mon directeur. Il était dans un coin, il pianotait sur son téléphone. Donc voilà, les pompiers sont venus, je suis allée à l'hôpital. Voilà, j'ai eu après 2 semaines d'arrêt parce que mon corps, il avait tellement eu un choc physique, il fallait que je m'en remette. 2 jours après mon malaise, je suis allée quand même à la médecine du travail, donc parce que en tant qu'employée de la mairie, on a la médecine du travail, hein, qui dépend de la mairie forcément. Et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Donc elle connaissait le personnage, hein, elle connaissait déjà le directeur, elle savait comment ça se passait, hein, mais bon. Donc cette personne m'a répondu. Montrez que vous avez envie et vous savez, de toute façon, ne le changera pas et voilà, il est très protégé. J'ai contacté tout de suite un avocat parce que je ne savais pas comment réagir face à cette situation. Donc là, on m'a dit, bah, écoute, faut porter plainte pour discrimination et harcèlement. J'ai porté plainte au pénal. Il a forcément été au courant et... Ça a été de pire en pire, un festival d'intimidation, de rabaissement, « je veux plus vous voir », en gros c'est ça, « je veux plus vous voir », pour que ça se finisse le jour où je devais danser, mon premier spectacle après ma grossesse et mon avant-dernier spectacle, puisqu'il n'y en avait que deux, c'était un pas de deux. Donc c'est des combinaisons de tours, mais qui sont dans cette variation-là, parce qu'il m'a fait une version encore plus compliquée rien que pour moi, parce que je tourne naturellement, donc il s'en est donné à cœur joie. Donc bon, et ce jour donc du spectacle, je reçois ma lettre de non-renouvellement. Je suis la 4e dans ce cas-là, qui, suite à une grossesse ou en retour de grossesse, a été remercié ou voilà ou a été forcé à partir parce que c'était intenable. Donc lui dans sa tête c'est vous avez fait ce choix là donc merci, au revoir, tu vas faire ta vie ailleurs, moi je veux plus de toi. Maintenant bah je vais reconstruire ma vie ailleurs, je vais faire un autre métier, je vais connaître d'autres choses. Et j'en suis aussi très heureuse.
Sincèrement ?
Pardon ?
Sincèrement ?
Je suis très triste de la façon dont ma carrière s'est achevée. Ça, j'en suis très triste parce que un danseur, normalement, doit avoir un dernier spectacle digne de ce nom. Ça doit être un peu comme une fête, un peu célébré par ses collègues, un peu célébré par son directeur, un peu... Voilà, ça se fait. Mais voilà, après, ma carrière, elle a été très belle, mis à part ces quelques derniers mois. Plein de femmes, de jeunes filles auraient rêvé d'être danseuses. Elles n'ont pas réussi à l'être, n'ont pas pu. Moi, je l'ai été. J'ai été soliste. J'ai dansé plein de premiers rôles. Je ne peux pas me plaindre. par contre, je ne méritais pas ce traitement. Voilà, c'est une page qui se tourne, c'est comme ça. Je peux me regarder dans un miroir.
France Culture, les pieds sur terre.
Voilà.
Donc on est chez vous.
Ouais. 11 mètres carrés.
C'est joli.
11 mètres carrés où il y a tout dedans. Je fais un pas, je suis dans ma douche. À côté, il y a ma cuisine. Et puis deux pas derrière, il y a la salle de bain. Non, mais c'est plutôt fonctionnel et ouais, une chambre d'étudiante au 7e étage. Je m'appelle Léa, donc j'ai 22 ans, je suis musicienne. J'ai commencé à vouloir en faire mon métier quand j'avais 14-15 ans, j'étais en seconde.
Vous jouez de quoi ?
Flûte traversière. J'ai une position qui est particulière, j'ai une lèvre qui est de coin. Ma lèvre supérieure, elle part complètement à gauche, j'ai un truc bizarre, donc j'ai jamais eu les lèvres comme n'importe quel flûtiste, donc j'ai une position très biscornue. Ça a été mon grand cauchemar pendant des années. Parce que déjà, j'avais des dents de travers, donc j'ai mis un appareil dentaire. Donc, avoir un appareil dentaire, quand on fait de la flûte, c'est pas évident parce que ça déforme un peu tout. Donc ça, c'est difficile. Et puis, ce qui est difficile, c'est qu'on est beaucoup sur le marché. Moi, j'ai toujours dit, si j'avais su, j'aurais fait du basson. Hein. On est 70-75 pour 3-4 places. Donc, c'est sûr que... Après, voilà, mes parents, ils étaient pas d'accord, en fait, pour que je fasse de la musique. Donc, c'était pas facile de les convaincre. Parce que ma mère disait que c'était un métier où il n'y avait pas d'avenir. Fais du droit, fais médecine, mais fais pas de la musique. Donc du coup, il a fallu insister, tenir tête à ma mère, enfin à mes parents. Et donc du coup, un jour, j'ai trouvé un papier de stage où donc il y avait un stage avec un professeur du CNSF de Paris, donc Conservatoire National Supérieur de Musique. Du coup, j'ai dit à mes parents, voilà, si jamais au cours de ce stage-là, ce monsieur me dit que j'ai le niveau pour en faire mon métier, est-ce que du coup, vous allez être rassurés, machin. Donc ils m'ont dit oui, donc du coup, on avait cours tous les deux jours et puis on travaillait dans nos chambres, donc on entendait tous les musiciens qui travaillaient en fait dans leurs chambres, on était les uns à côté des autres, donc c'était une ambiance de travail assez sympa. Je me compare beaucoup aux autres et je me rends compte que je tiens la route, quoi, donc moi je suis contente. Et donc il a dit à mes parents, oui, je joue très bien. Si vous voulez, je peux l'apprendre dans ma classe, dans une école, donc sur Paris. Ça me permettait d'avoir cours avec lui, qui était déjà dans le conservatoire aussi. Donc lui, il savait exactement à quoi il fallait ressembler, en fait, pour entrer dans le conservatoire là où je voulais rentrer. Je faisais les allers-retours, du coup, à Paris. Le mercredi après-midi, parce que je passais mon bac en parallèle à Douai, et je prenais donc des cours à Paris le mercredi après-midi. La première semaine, tout va bien. Le deuxième cours, voilà, ça avait déjà commencé à déraper. Ça a commencé bêtement, en fait. J'avais besoin d'un renseignement par rapport à une manifestation autour de la flûte qui avait lieu en novembre. Donc j'avais envoyé un SMS, tout simplement, parce que je pourrais avoir des précisions. Et il m'a dit, oh, tu me déranges pas du tout, c'est un plaisir de parler avec toi, tout ça. Donc on a commencé à échanger, à écrire, je dis, ah bon, machin. Donc on s'écrit, et puis le deuxième cours, donc quand je retourne à Paris le mercredi suivant, je range mes affaires, en fait, à la fin du cours. Donc j'étais assise exactement donc, comme ça, et lui, il avait une chaise donc à côté de moi. Et donc il m'a fait basculer, en fait, sur son épaule, et puis après il a mis sa main sous mon pull, quoi. Je me souviens, j'ai pas bougé. Il n'y a pas eu un mot, il n'y a rien eu du tout, j'ai pas bougé. Et j'ai pris mon pull et je l'ai remonté comme ça pour qu'il enlève sa main, en fait. Je suis partie. Donc je reprends le TGV et donc je lui envoie un texto dans le train, je me souviens très bien. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez eu un geste déplacé ? Et là, il m'a dit, mais pas du tout, mais c'est tout à fait normal. T'inquiète pas, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de méchant. Et j'avais 16 ans, j'étais un petit peu une gamine à un niveau affectif, donc moi, je me méfiais pas du tout de personne. Surtout que j'étais loin d'imaginer qu'à son âge, donc 66 ans, hein, on pouvait penser à des choses comme ça après. Enfin, il avait le poste qu'il avait, pour moi il était inoffensif, hein, c'était pas possible qu'il soit méchant en fait. Pour moi, comme il était gentil, c'était donc du coup normal. Puis un jour il m'appelle et il me dit « Tu sais que tu commences à devenir de plus en plus importante pour moi ». Moi, je me souviens, j'ai eu un gros blanc, c'était un vendredi, j'étais chez moi à Douai, donc chez mes parents. Il y a eu un blanc, moi, je sais pas, de 15 secondes et j'ai raccroché. Et là, j'ai commencé à me dire que ça a commencé à partir dans tous les sens. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, j'en ai parlé à mes parents au début. Et donc, ils m'ont dit, oui, il faut pas laisser faire ça. Nous, on va t'enlever de la classe, tu vas revenir à la maison, tu vas quitter Paris, on va aller lui casser la figure. Je dis, oulala. Alors, moi, j'ai très, très peur de ça. Donc, je dis, ok, je m'en occupe. Si on veut y arriver dans ce milieu, c'est faut aller à Paris. Donc, moi, que j'y étais, je voulais pas revenir. Tout le monde parlait du conservatoire de Paris. Dans les conservatoires de province, qu'est-ce qu'on prépare? Bah, c'est le conservatoire de Paris, on parle que de ça. C'est, je sais pas, une consécration, une preuve de la valeur de la personne, en fait. C'est moi, si j'entre au CNSM, c'est que j'étais vraiment quelqu'un de bien, quoi. J'étais bien, quoi. Donc moi, je voulais vraiment rentrer là, et donc il n'était pas question que je revienne à Douai. Et après, donc forcément, ça s'est empiré. Il y a eu la convention de la flûte, c'était à Paris en novembre 2012. C'était sur 4 jours, donc moi j'y suis allée. Puis, je sais pas, j'ai fait une crise d'angoisse à un moment. Donc, je crois que ça a commencé à travailler. Je savais pas que c'était ça en fait du tout. Moi je pensais que c'était juste par rapport avec mes parents, comme d'habitude. J'allais pas bien, machin. Et donc, du coup, il m'a ramenée dans son hôtel. Et ben voilà, il y a eu pénétration. Je précise avec les doigts, hein, comme ça on voit de quoi on parle. Pas sexuel. Et je sens un truc bizarre. Puis d'un coup, je sais pas, il fait un drôle de bruit. Donc je comprends pas ce qui se passe. Et puis je sens un truc sur ma cuisse. C'est bizarre ça. Je regarde. En fait, il avait éjaculé sur ma cuisse, quoi. Et ça faisait un moment qu'il m'avait commencé à me parler de fellation. Moi, je voulais pas. J'esquivais, en fait, pour pas lui dire non, pour pas me confronter, du coup, à sa possible colère ou qu'il me fasse la tête. Ou ce que j'avais peur, hein, que les adultes me fassent la tête à l'époque. Donc, je me retrouve dans sa voiture. C'était en décembre parce que j'allais écouter les cours au conservatoire où je voulais rentrer. Donc, le cours de ses élèves au conservatoire, je les écoutais. Et là, je savais que, je sais pas pourquoi, j'ai su que c'était là maintenant que ça allait se passer. Je me dis, ça va me tomber dessus. Effectivement, ça n'a pas manqué, donc moi j'ai pleuré, j'ai dit non, je veux pas. Il m'a dit, mais c'est rien, comme d'habitude, hein, c'était jamais rien. C'est pas grand chose. Donc je pleure, et puis en fait, il m'a pris la tête, et puis il me l'a appuyé, quoi. Et puis après, on est sortis, je me souviens, et puis j'ai rien dit, j'ai rien fait. Puis après, c'était ça toutes les semaines, hein. Fellation toutes les semaines, tous les mercredis. Après c'était m'acheter de la lingerie pour m'habiller, pour que je prenne des photos de moi. Enfin, il y avait me demander des photos pornographiques tous les jours. Puis de toute façon, en fait, si je le faisais pas, il me parlait plus. C'était rentré dans une sorte d'habitude. En fait, donc à la fin, on se pose même plus la question. Une fois, je me souviens, je lui avais dit non sur une chose. J'arrive en cours, il me dit pas bonjour, il me parle pas, il me regarde pas, il me donne à peine cours. Moi, j'avais peur qu'il me laisse tomber, quoi. C'était insupportable. Le CNSM, ça, je ne l'ai jamais oublié. Ça a toujours été dans ma ligne de mire. D'ailleurs, l'année d'après, je suis passée au premier tour. J'étais super contente. Moi qui n'avais pas encore gagné de concours, ça commençait, en fait. Ça débutait. Donc, oui, j'avais, au niveau flûtistique, ça allait. Quand on est poussé par quelqu'un qui a du poids et on a l'impression qu'on est invincible, en fait, hein, c'est quasiment ça. Moi, je montais sur scène, mais j'avais, moi qui avais le trac monstrueux pendant des années, là, pour la première fois sur scène, j'avais plus du tout le trac. Un jour, il m'a demandé le double de mes clés de chez moi, parce qu'en fait j'allais passer l'année d'après en licence de musicologie à Paris, donc j'allais quitter Douai et il fallait que je m'installe à Paris. Donc du coup, mes parents, ils ont réussi à trouver donc cette chambre là où je suis actuellement. Et donc je me suis dit, oula, c'est bizarre, ça veut dire que s'il a le double de mes clés, il peut venir chez moi n'importe quelle heure, et qu'est-ce qui va m'arriver encore ici? Qu'est-ce que c'est, quoi, ce plan? Je garde ça dans un coin de ma tête, puis je commence après à fouiller sur Internet. Je commence à taper abus sexuels sur Internet, je vais me renseigner, voilà. Je commence à voir la description, hiérarchie, ascendant, profession, machin. J'ai dit, ok, puis ça commence, je lis les témoignages, en fait, qui commencent drôlement à ressembler à ce qui m'est arrivé. Alors du coup, je commence à me dire, ça commence à pas me plaire, en fait. Je commence à me rendre compte qu'il y a peut-être pas si gentil que ça. Puis un jour, j'ai décidé d'aller aux consultations gratuites au barreau de Paris. Donc ça vous permet de voir des avocats gratuitement. Donc j'y suis allée, j'ai vu une avocate et je lui ai dit voilà, en gros il se passe ça, je suis pas très bien, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qui m'arrive, mais il y a un truc bizarre. Elle m'a regardée avec des gros yeux, genre elle est tombée des nues cette avocate, elle me dit mais enfin. Elle me dit mais enfin, mais faut porter plainte, mais c'est la mademoiselle, mais c'est un viol, elle me dit comme ça. J'aurais préféré qu'il me frappe, quoi. Ça aurait été plus simple dans ma tête, j'aurais pas eu à me poser cette question, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est pas gentil, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est pas de ma faute. Si on m'avait frappé, bah c'était sûr que c'était de sa faute, quoi, et pas de la mienne. Donc à 16-17 ans, j'étais très mature sur beaucoup de points. J'ai encore du mal à intégrer que j'étais pas mature, effectivement, et donc du coup que c'est pas de ma faute, mais... J'avais besoin aussi de porter plainte pour qu'on me dise que c'était pas de ma faute. En fait, c'était beaucoup ça que j'attendais. De la justice, parce que moi je continuais finalement à pas comprendre grand chose, hein. Enfin à moitié. Je sais pas, j'aurais une amie du même âge à qui ça arriverait, je lui dirais mais bien sûr que c'est pas normal, mais bien sûr que lui il est complètement taré, que lui c'est un grand malade. Mais dans mon cas à moi, c'est toujours pas évident en fait, ça tombe pas pour moi sous le sens. Mais c'est pas évident quand il y a une relation affective en fait avec quelqu'un et qu'on dit pas non, mais on dit pas oui, et puis. Donc du coup, voilà, il est comparu pour atteinte sexuelle sur mineur sans contrainte, violence, menace ou surprise. Donc le viol n'a pas été retenu. Donc il a été jugé pour avoir en fait une relation avec une mineure, quoi. En gros, c'est ça. Lui, il est ressorti, donc condamné à 4 mois de prison avec sursis. Donc ben, il est ressorti, il est rentré chez lui, quoi. Hein. C'est tout, quoi. Ça fait 50 ans que ça a duré, et puis tout le monde était au courant, hein, des agissements de ce monsieur, et il y a eu un silence. Les gens avaient peur, et en tout cas, de là où j'ai pu le faire virer, je l'ai fait parce que je trouve que c'est juste normal, quoi. C'est un minimum. Et moi, c'est insupportable que, en ayant fait tout ce qu'il fait, il continue d'avoir cette aura et ce privilège de diriger des choses. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. J'ai continué les concours, je me suis entêtée, je dis bon, il s'est passé ça, il va falloir rebondir, il va falloir essayer de retrouver un peu confiance, et voilà. Et les deux, troisième et quatrième fois, j'ai même pas eu un premier tour, donc j'ai dit allez, ça suffit, on m'a tous saoulé, je m'en vais. Voilà, donc j'ai arrêté, et puis c'est très bien. What if birds aren't singing,
that's screaming. Harcèlement dans le monde de l'art, c'était un reportage de Valérie Borst réalisé par Clémence Grosse. Merci à Gaëla, à Léa, à Philippine Lebret et à Mathilde Dumazet. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire. Screaming, what if birds aren't singing?